Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI et comme chaque jour désormais pour vous parler de football, plein de nouvelles. Alors on y va avec cette Panenka pour un 700e but. Lionel Messi fait les choses en grand pour gonfler son palmarès. 700 buts sous le maillot du Barça et de l'Argentine, une prouesse en 15 ans de carrière professionnelle. Ce qui n'a pas suffi cependant à sauver le Barça contraint au nul par l'Atlético Madrid, une rencontre où Antoine Griezmann est entré dans les arrêts de jeu. Grisou a-t-il été humilié ? Rideau sur la Bundesliga, une drôle de saison achevée après le confinement. Quel bilan traité de cette fin de championnat ? Le 8e sacre du Bayern Munich les libère-t-il pour la Ligue des Champions à venir, alors que Stuttgart revient dans l'élite allemande ? L'Olympique de Marseille est-il un club à vendre ? Le propriétaire américain McCourt s'en défend, mais le Toulonnais Mourad Boudjedal insiste avec un projet et des capitaux venus du Golfe. Info ou intox, notre fin limier Nabil Djellit enquête sur le Vieux-Port et il nous racontera les dernières nouvelles venues de Marseille. Mais des nouvelles de Marseille, on compte aussi sur vous Marc Libra, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous revoir.
D'être ensemble, mais au moins dans un même univers.
On embrasse, j'embrasse tout le monde, de partout.
Je suis sûre que les auditeurs seront sensibles, on leur a manqué paraît-il, en tout cas c'est ce qu'ils nous écrivent sur la page Facebook de l'émission où on compte maintenant 581 000 amis de Radio Foot. David Lortolari, lui aussi là en personne. Bonjour David.
Bonjour Annie, bonjour à tous. On n'avait pas perdu de la dynamique, mais ça fait plaisir quand même de se retrouver.
Non, on se retrouvait de temps en temps via la vidéo, comme on dit. Et surtout, je vois que vous êtes aux couleurs du Bayern. Ça y est, vous êtes heureux, ils sont champions.
Oui, et puis c'est que le début, peut-être d'un très long règne.
Il dévoile déjà
il
tout.
Il ouvre les hostilités.
Attendez, il y a un autre sujet avant. On y va, Radio Foot, c'est parti.
Messi face à Yann Oblak. La Panenka de Léo Messi. Demain pour le FC Barcelone, le 22e but en Liga du meilleur buteur du championnat.
La révérence au football d'un artiste du ballon rond pour marquer l'histoire et marquer son palmarès déjà immense. Lionel Messi a donc inscrit le 700e but de sa carrière sur pénalty, mais d'un geste qu'il faut réussir, bien sûr, une panenka. Et il fallait oser, mais lui sans doute peut tout oser. Marc Libra, vous, l'ancien buteur, l'ancien joueur, est-ce que c'est un geste pour se faire plaisir, un geste provoquant ou un geste aussi pour marquer les esprits des téléspectateurs, puisqu'en ces temps de pandémie, le Camp Nou sonne plus que vide.
Je pense que par rapport à Messi, il ne pense pas forcément. Il sait que c'est le 700e.
Oui, bien sûr, parce que ça faisait plusieurs matchs qu'on attendait qu'il le marque.
Exactement, et qu'il va rentrer dans l'histoire. Donc, il peut se permettre cette petite panenka, puisque le gardien de but est déjà de l'autre côté quand il l'a fait. Après, pour un joueur classique, une panenka, il faut être très, très courageux, parce que ce n'est pas évident. Que vous soyez en National, en Ligue 2 ou en Ligue 1, il faut
ou en Coupe du Monde, n'est-ce pas ?
Alors, celle-là, en Coupe du Monde, c'est encore autre chose. C'est le plus haut niveau. Mais oui, c'est d'un courage extraordinaire. Mais par rapport à Messi, ce qu'il est capable de faire pour lui, on va parler de ses stats. C'est simplement hallucinant, c'est stratosphérique. Donc pour lui, c'est classique, c'est lambda.
C'est classique, mais c'est classe de marquer son 700e but sur une panenka, David.
Oui, alors vous racontez très très bien l'histoire. Effectivement, ça fait penser à d'autres panenka, à des moments cruciaux comme ça.
Donc celle de Coupe du Monde, c'est évidemment celle de Zidane en finale de Coupe du Monde. Zidane. Malheureusement, finale perdue, mais bon.
La première de toutes aussi, la toute première. Mais... c'est simplement, me semble-t-il, au-delà de tout ce qu'on peut raconter autour du contexte du 700e but, la marque de ces joueurs spéciaux qui finalement, logiquement, vont réussir des gestes spéciaux au moment décisif, au moment où c'est important. En l'occurrence, ça permet pas de gagner le match, mais c'est la marque des tout grands et des
ouais. Parce oui, que j'imagine grands, que si hier il l'avait loupé, alors là par contre on serait dit mince son 700e but.
On est passé par là parce que juste avant il fait un superbe enroulé, ça passe pas très dans la lucarne, mais finalement il s'est dit bon allez le pénalty c'est pour moi et je vais faire ça.
Alors des joueurs qui ont marqué 700 buts au moins, en tout cas en activité, ben il y en a que deux. Il y a évidemment devant lui, je crois que vous auriez deviné, qui oui. est-ce, hein, n'est-ce pas ?
Avec un beau numéro 7.
Voilà, Cristiano Ronaldo qui, par ailleurs, sur un autre terrain, à peu près au même moment, marquait, non pas
un
sur pénalty,
extraordinaire, un boulet de canon,
dingue.
Un missile.
Oui, on en parlera demain dans Radio Foot avec la Juventus. Hein. En tout cas, lui, il en est à 728 buts, alors que finalement, le Messi en est à 700. Alors, de vieux retraités les ont précédé quand même sur ce chemin, on s'en rappelle, on se souvient de Pelé, le roi Pelé, qui, dit-on, quand on va visiter le Maracana de Rio de Janeiro, aurait marqué là son 1000e but. Alors après, il y a un peu on brode un peu avec les chiffres, hein, parce que officiellement, Pelé n'est que le 3e meilleur buteur au monde. Il en a marqué 767 en 831 matchs. Celui qui en a marqué le plus, et je vous laisse peut-être le dire, David Lortolari, parce que c'est dans votre zone d'influence, on va dire, c'est pas un Allemand.
Non, mais moi, j'ai pas la liste officielle sous les yeux. C'est vous, Annie, qui avez fait cette liste précisément.
Non,
moi,
alors,
je pense
c'est pas
à
moi. Alors, je vais vous dire honnêtement, oui, c'est internet. On l'a prise sur Wikipédia. Romario, vous disiez évidemment.
Romario, mais on sait que quelques-uns des 1000 buts revendiqués par Romario ont été marqués aussi sur la plage à l'occasion voilà. de matchs plus qu'amicaux.
Exactement.
Mais n'empêche.
Alors Romario, effectivement, il est le deuxième. Et je me souviens aussi, parce que je vivais encore au Brésil à l'époque où c'était dans le stade de Vasco, pour le compte de Vasco. Et dans du coin où est parti le ballon pour qu'il marque ce but, a été mise une statue en l'honneur de Romario, lui qui a joué à peu près pour tous les clubs de la ville de Rio. En tout cas, lui, il a marqué 772 buts officiellement, même s'il en revendique 1000, évidemment, dans le sillage de Pelé. Mais le premier, il s'appelle Joseph Bican, et c'est un Tchèque qui a marqué 805 buts officiellement en 530 matchs. Alors, qui était-il ? Eh bien, c'était donc un Tchèque des années 30, si je ne me trompe pas. C'était un joueur donc de cette République, peut-être même pas République tchécoslovaque à l'époque, entre 1931 et 1956. Un ratio impressionnant de 1,51 buts par match. Et puis alors
il a beaucoup joué quand même, 25 ans.
Bah oui,
mais le ratio est incroyable.
Ouais, exactement.
Parce
c'est que énorme.
Un but par match, c'est déjà
énormissime.
Oui, parce que Romario, il en est à 0,78, Pelé à 0,92, Messi en est à 0,79. À peu près comme Cristiano Ronaldo. Alors entre Pelé et Messi et Cristiano, on a Puskás bien sûr, le Hongrois. On a aussi Gerd Müller. Hein. Et juste après, alors moi j'ai eu envie de rajouter sur la liste un personnage dont on avait parlé dans Radio Foot juste derrière Messi et avant Ferenc De, un autre Hongraussi des époques avant-guerre 1940. C'est un certain Matthias Sindelar.
Oui, alors
l'Autrichien.
Moi, je crois, effectivement, on en avait parlé avec Olivier Margot il y a quelques mois maintenant.
Très belle émission.
Il y a aussi tout un contexte, c'est-à-dire que bien sûr, quand vous jouez dans une équipe qui marque 7 buts par match, voilà. vous êtes quelque part privilégié. Mais ça reste magique. Moi, c'était Romario le premier nom qui m'était venu, mais effectivement, il n'est pas le premier de cette liste.
Oui, de notre époque, c'était Romario, effectivement.
Ça permet aussi, Annie, un tout petit peu de remettre en perspective, de recontextualiser et de relativiser. Même si le mot est horrible, parce qu'on ne va pas relativiser des performances géantes comme celle-là. Les deux, là, en l'occurrence, dont on parle et qui sont encore actifs, n'ont jamais caché qu'ils jouaient aussi un match à deux.
Une course poursuite.
Et ça doit aider peut-être aussi à être encore plus fort à chaque match.
Et ils ont commencé à peu près en même temps, hein, 2002 pour ce qui est de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Son premier but, c'est en 2005. Et alors, Lionel Messi, je vais vous donner quelques chiffres parce que c'est assez impressionnant. Il a marqué 630 buts. Avec le maillot du Barça et 70 avec l'équipe d'Argentine. Il a marqué 441 buts, ça je le dis pour Rémi, comme ça les statistiques il aime bien, en Liga. En Ligue des Champions, c'est 114 buts. Bon, alors après, il y a des Coupes du Roi, Copa América pour la sélection argentine, 9 en Copa América et en Coupe du Monde, 6. Et puis après, alors il en a marqué 582 du pied gauche, ouais. Pour 92 du pied droit et 2 de la tête.
Qu'est-ce qu'il est mauvais de la tête.
Mais vous vous souvenez, récemment, il en a mis un de la tête, c'était absolument incroyable.
Il est resté en l'air, en plus, il avait marqué contre Manchester, c'était en Coupe d'Europe.
Oui, il y avait un but très important de la tête.
Extraordinaire.
Exactement.
On s'en rappelle.
Marc, est-ce qu'il y a quand même un but typique de Messi que quand on le voit débouler, on se dit, il va marquer, on sait presque déjà comment il va marquer.
Je sais pas, je me rappelle de d'ailleurs ce but de la tête où il reste en extension très impressionnant. Après, le style Messi, c'est difficile puisqu'il est capable à 30-35 mètres de partir, accélérer, d'aller faire la différence.
120 buts hors de la surface de réparation.
Et la plupart du temps, on dit ah ben c'est facile, c'est prévu, il va faire ça et puis il réussit. Donc j'ai pas de but bien précis aujourd'hui en tête. Et celui qui m'avait marqué, c'était parce qu'il est pas très grand. Il était resté en extension et ce but m'avait marqué. C'était il y a presque 10 ans maintenant, il me semble. Un but très important qu'il avait marqué. Voilà.
David.
Non, moi c'est plus le bout de la chaîne barcelonaise qui m'a marqué comme étant la signature de Messi, c'est-à-dire un jeu avec énormément de passes, un jeu très géométrique, très organisé avec Xabi Hernandez, notamment avec Iniesta et Messi qui avec sa précision diabolique termine les actions qu'il a parfois lui-même commencé. Mm-hmm. Mais pas un but précis, pas un but, c'est plutôt cette façon de procéder du Barça et de Messi.
Et de venir d'assez loin avec le ballon.
Ce que dit David, c'est l'ancienne époque. Parce que depuis un an ou deux, malheureusement, il a cité deux joueurs qui sont plus là et ils ont du mal. Ouais. On va en reparler peut-être.
Mais bon. Et ben justement, on en reparle. Parce que le pénalty réussi de Messi, après pratiquement sa passe décisive hein, sur corner et le premier but marqué contre son camp par Diego Costa, mais grâce au corner de Messi, n'a pas permis au Barça de l'emporter hier face à l'Atlético. Or, ça aurait été très important. On savait que cette rencontre serait compliquée. On en parlait hier avec François David. Il y a eu en tout cas un score de 2-2, 4 buts marqués dont 3 sur pénalty, un match nul donc, le troisième des 5 dernières rencontres pour le Barça. Les voilà donc à 1 point derrière le Real alors que le Real doit jouer demain et qu'ils seront peut-être à 4 points de lui. Marc, est-ce que le Barça a perdu son titre hier soir en faisant seulement un match nul? On se souvient des déclarations de Quique Setién quand ils reviennent de confinement, c'est on a 11 matchs à jouer, c'est 11 finales.
Ouais, bah ça ils avaient tous sorti ça. Ouais. Un peu. En Allemagne aussi. On entend de la même chose, Zidane aussi.
Ouais, mais faire 3 matchs nuls dans des finales, c'est gênant.
Ce qui est le plus flagrant, c'est qu'aujourd'hui le Real Madrid, sans être vraiment extraordinaire, est capable de faire la différence avec un très bon Benzema. Et là, on se rend compte que le petit Ricky Puig qui peut faire la différence, à part Messi, il se passe rien d'autre. Quand on a vu les difficultés de Suarez à accélérer hier soir, quand on voit la défense barcelonaise, elle est en danger. Il y a des joueurs qu'on ne voit plus du tout, Alba, qu'on a du mal à voir sur son côté. On est vraiment, vraiment à la fin d'un cycle. Alors, de dire que le championnat est joué, je ne sais pas. En tout cas, ils ont pris peut-être un coup sur la tête et ça permet peut-être au Real de se dire y a peut-être quelque chose à aller chercher alors que c'était peut-être pas forcément prévu au départ, à ce nouveau championnat qui a redémarré.
David, c'est hier on s'amusait à dire voie royale pour le Real s'il y avait une déjà par la différence de but, par en plus le point qu'ils avaient d'avance. Et là, les deux points, là, il en reste un, mais est-ce que...
Il peut avoir 4 points, donc.
Exactement. Dès ce soir, 4 points. Est-ce que le Real ne voit pas s'envoler son rêve de titre encore cette année ?
Le Barça, pardon. Oui, effectivement. Marc parlait de fin de cycle. Il n'y aura probablement de fin de cycle qu'avec la fin de Messi. Oui. Et peut-être aussi que son ombre immense... rend impuissant peut-être ses coéquipiers aussi, dans le sens où on a connu dans les clubs précédemment, dans les équipes nationales aussi, parfois un joueur très influent, très décisif, qui écrasait, qui vampirisait un petit peu aussi le jeu de l'équipe, qui finissait par le laisser pourrir presque, je pourrais
dire. Amusant hier les commentaires où les commentateurs s'amusaient à dire « Regardez, là, il aurait pu passer à Messi, mais il ne passe pas que à Messi. » En l'occurrence, c'était le petit Puig, justement. Mm-hmm. Mais c'était amusant de souligner que il y a par moments où il ne faut pas être happé par Messi.
Et ils sont obligés parce qu'aujourd'hui.
Oui, voilà.
C'est ce que dit David en fait.
C'est malheureusement, on est presque obligé quand on voit Busquets qui est un petit peu à la ramasse, il a du mal. Piqué, ça devient très difficile. Alors l'anglais, pareil, il fait ce qu'il peut, mais c'est difficile pour eux. Mais on attend.
Heureusement qu'il y a Ter Stegen.
Mais ça fait quand même.
Qui ne sera pas infaillible éternellement non plus.
Exactement, qui les a sauvés plusieurs fois et depuis quelques années. Mais non, la plupart du temps, si on attend, parce qu'on voit vraiment qu'hier, ça ne bouge pas. Alors en plus, face à l'Atlético, c'est une religion d'attendre, mais vraiment d'attendre, de leur dire, nous, on est troisième, on vient d'égaliser, on attend. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, et on attend le petit Ricky Puig, et on attend Messi. Et si ça passe pas tout le temps, malheureusement, ça donne ce genre de résultat. Mais c'est d'une tristesse absolue. Alors à chaque fois, on nous dit, mais c'est le coach. Je veux bien, mais il y a quand même l'année dernière, il y a deux ans, pareil, le coach. Non, mais c'est toujours le problème du coach. À un moment donné, il y a des joueurs qui ne sont plus, malheureusement, pour moi, aujourd'hui, au niveau.
On en reparlera de ce Ricky Pucci, en tout cas, ce jeune milieu de terrain, hein, titularisé pour la deuxième fois hier. Et c'est vrai que quand il est là ou quand il rentre, on a un vent de fraîcheur dans cette équipe.
Ouais. Il accélère.
Et puis, il a des idées, il essaye des choses, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Juste avant qu'on. On parle de Real Barça, cette déclaration de Zinedine Zidane aujourd'hui en conférence de presse à la veille du match demain que disputera le Real face à Leganés, hein, c'est un peu le derby de Madrid, il a dit pour ce qui est du titre et de cette voie royale, on n'a rien gagné, c'est la réalité, la vraie, tant que la saison n'est pas finie, tant que tu n'es pas mathématiquement champion, tu ne peux rien faire. Il dit, moi je n'ai pas oublié, j'ai été joueur aussi. Donc effectivement, pour l'instant le Real, la voie s'ouvre, mais c'est à eux, ils ont leur destin en main en tout cas. Juste un petit mot avant qu'on continue sur autre chose du Barça, c'est sur Carrasco, Yannick Carrasco de l'Atlético. Il y a eu beaucoup d'éloges, il a été l'homme du match, beaucoup d'éloges de la part de son entraîneur, Simeone, et c'est vrai qu'il était parti faire un tour en Chine, le Belge, hein. Il est revenu, et depuis, je me souviens du match précédent déjà de l'Atlético, et il est effectivement revenu à son bon niveau, David.
Oui, alors
c'est pas perdu du côté de l'Est. Hein.
Tout à fait, il y a quelques cas comme ça. Est-ce que c'était la nécessité peut-être aussi psychologique, mentale d'un palier qui parfois peut prendre plus que 15 jours, qui peut prendre 6 mois, qui peut prendre une saison
D'aller voir ailleurs.
Oui, alors après, il peut y avoir différentes raisons. Je ne connais pas précisément les raisons.
On peut imaginer.
Ah, une fois qu'il a quitté le championnat de France. Ce qui s'est passé exactement derrière pour lui personnellement, mais on peut imaginer que
Il était parti de Monaco, donc à l'Atlético.
Oui, voilà.
Et après, il est allé faire un petit tour en Chine avant de revenir à l'Atlético.
Il y a un exemple qui a bien fonctionné avec le Borussia Dortmund,
Witzel,
qui a retrouvé presque. Oui, on peut même dire une seconde jeunesse. Parce
Igalo,
que disait...
du côté de Manchester United. Oui. Hein. On en revient de Chine, finalement.
Plus que par le passé, peut-être.
Non, mais Carrasco, c'est intéressant, parce que c'est un peu un des hommes-liges de Simeone.
Mais après, quand on rentre dans le schéma de Simeone, on ne peut pas forcément avoir le meilleur joueur. On va prendre l'exemple. On prend aujourd'hui Thomas Lemar et Carrasco. On va dire que Lemar est vraiment supérieur. Mais en fait, quand on voit sur le terrain, il y en a un qui va faire les efforts, qui va se saigner pour une équipe et qui n'a pas peur d'aller au charbon du matin au soir.
Ah ouais.
Et l'autre qui va faire attention que s'il rentre, il peut pas. Enfin, c'est difficile parce que pour moi, Lemar est au-dessus, mais en termes de conditions et d'état d'esprit, il est mieux. On peut dire pareil d'Ocampos quand il est à Marseille. Vous savez que vous prenez ce joueur, vous le mettez à l'Atlético, ça marche. Vous le savez. Vous prenez Diego Costa, sans être méchant, parce que j'étais un bourrin comme lui, il va vous rentrer, il va pas s'arrêter. Ben, vous le mettez à l'Atlético, et ben, ça fait la différence. Mmh. Et les joueurs qui sont à ses côtés, s'ils sont pas dans l'esprit, lui, c'est ce qu'il veut. Regardez hier soir, il sait que ça va être dur. Il met deux lignes, et puis on défend. Ouais. Et puis si on peut leur planter un but, on leur plante un but. Ils ont plus Griezmann en face avec eux, mais c'est dommage. Mmh. Mais en tout cas, c'est un état d'esprit, mentalité.
Bah justement, Griezmann, c'est ce qui fait parler aussi aujourd'hui.
Quelle passe de, hein,
c'est pas préparé, tout ça est spontané.
C'est naturel, je précise à tout le monde,
c'est le retour en studio.
C'est
Marc,
cette ouverture transversale pied gauche.
Alors, merci pour la passe décisive.
Je vous en prie.
Antoine Griezmann.
Ça fait deux passes déjà.
Le cas Antoine Griezmann, qui hier soir, sous les yeux du Camp Nou, vide, certes, mais avec des caméras et des milliers ou millions de spectateurs, est entré dans la partie à la 90e minute et pour quelques secondes de temps additionnel. Mais ce n'était pas contre lui, assure l'entraîneur des Blaugrana, Quique Setién.
Bien sûr que Griezmann est un joueur important, et c'est difficile lorsqu'un joueur de ce niveau rentre aussi tardivement dans le match. Mais les circonstances m'ont forcé à faire ce choix. J'aurais pu prendre une autre décision, comme ne pas le faire rentrer du tout, car les joueurs sur le terrain faisaient du bon boulot. Mais un joueur comme Griezmann est un joueur toujours capable d'une étincelle en fin de match. Je comprends que cela puisse être difficile pour lui. Je vais lui en parler, mais je ne vais pas non plus lui présenter mes excuses. C'est une décision que je dois assumer. Je comprends qu'il puisse se sentir mal. Je me sens également mal pour lui. C'est un grand professionnel, un grand joueur et qui plus est une très bonne personne.
Alors, une grande personne, un grand joueur. Mais il a aussi ajouté à un moment la petite phrase qui tacle et qui fait du bruit aujourd'hui, parce qu'on lui parlait de son choix tactique. Il dit « Je n'ai pas effectué tous les changements parce que quand on a Suarez et Messi, on sait qu'il peut toujours se passer quelque chose. Et c'est difficile de faire rentrer Griezmann sans déstabiliser l'équipe. » Est-ce que Antoine Griezmann a été humilié par cette phrase hier, par ces phrases, ces déclarations et le fait de rentrer à la 90e minute, selon vous? Marc Libra.
Non, je pense pas qu'il soit forcément humilié. Après, ce qui est gênant, c'est que Quique Sétienne joue sa tête et qu'il pense mettre les meilleurs joueurs, mais il se trompe encore une fois. On va prendre que depuis le début de la saison, donc on va revenir à la début de saison avant Covid et tout ce qui se passe. Griezmann a du mal à rentrer dans cette équipe. Il a du mal, quoi qu'il arrive. C'est pas évident pour lui,
depuis
c'est difficile.
Depuis le début de saison.
Oui. Depuis le début de saison, il a toujours beaucoup de mal.
Mais il lui faut peut-être un moment d'adaptation.
Ouais, mais là, il y a une adaptation, il y a une coupure de 3 mois, et puis on redémarre. Et on se rend compte que, malheureusement, quand il est titulaire, ça ne fonctionne pas. Mais par rapport à Quique Sétienne, par rapport à hier soir, il sait à tout prix que derrière lui, le Real a gagné, donc il faut qu'il gagne. Qu'est-ce qu'il attend pour Fatih, le faire rentrer en dessous, Fatih, le faire rentrer 85e et Griezmann? Mais quand il voit Suarez, qui va à peu près à entre 8 et 9 kilomètres sur eux, à Paris, il peut courir au sprint, il n'y a pas de radar. Lui, il est peinard. Moi, je me fais arrêter. Lui, il est peinard. Donc, il faut arrêter. Il faut que Suarez, il sorte. Et, joue la gagne, mon garçon, joue la gagne. Tu sais que ça a gagné en plus. Là, il y a la pression. Donc, non, 85 en dessous Fatih, on ne sait pas pourquoi. Et Griezmann, mais ça rime à rien. C'est-à-dire que ça montre l'incompétence, malheureusement, de cet homme-là qui est complètement perdu et qui dit qu'il veut faire plaisir, je pense, à Messi ou pas Messi. En tout cas, il a voulu faire plaisir et quoi qu'il arrive. Parce que certains vraiment disent oui, mais ils peuvent toujours être champions. Et aujourd'hui, ça peut être très compliqué, mais il a fait des choix qui sont, pour moi, c'est pas de manquer de respect à Griezmann, c'est que juste lui ne comprend rien, c'est tout. Parce que là, il fallait à tout prix aller chercher un résultat. Et quand à la 65e, tu vois ce qui se passe, bah, tu fais rentrer du sang frais et puis voilà.
Et pas à la 90e.
Pas à la 85e, en dessous Fatih qui rentre.
Antoine Griezmann, c'est en signe. C'est la deuxième fois qu'il n'était pas titulaire. Ne dit rien sur les réseaux sociaux. Il y a eu des réactions de son père, des commentaires et de son frère qui vite ont été effacés des réseaux sociaux, même si certains nous les font lire maintenant. Est-ce que Griezmann, on essaye de le pousser peut-être hors du Barça aussi, et lui a dit qu'il resterait droit dans son maillot.
Dans les deux présentations que vous faites, Annie et Marc, vous dédouanez le joueur. C'est-à-dire que Marc estime qu'il y a une responsabilité de l'entraîneur.
Mais il n'est pas très bon depuis aussi.
Oui, oui. On peut aussi.
Depuis plusieurs matchs, il avait failli marquer l'autre fois, le but a été refusé. Bon.
Je parlais du nombre envahissant de Messi tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a un lien, on n'est pas dans le vestiaire, mais on peut aussi raisonnablement émettre l'hypothèse que Griezmann s'épanouirait davantage sur une équipe, dans une équipe, allez, un demi-cran en dessous, comme il le faisait à l'Atlético.
Ou alors,
est-ce que c'est pas un peu compliqué?
Il tombe dans la mauvaise année du Barça, oui, bon. Avec les mauvais joueurs, malheureusement.
Mais si on a le Griezmann qu'on connaît en équipe de France, qui a été brillant, qui a été enthousiasmant, qui a été décisif, pourquoi ne joue-t-il pas?
Mais l'équipe de France où Griezmann s'épanouit, c'est un groupe entier qui évolue ensemble.
Voilà.
Et là, le problème, c'est que t'as Messi et le petit Ricky Pouille là qui veut essayer de faire l'effort, mais autrement, c'est difficile pour lui. Et le meilleur de Griezmann, c'est quand à l'Atlético, t'as un groupe de 11 mecs qui est capable de se sortir,
lui compris,
travailler,
ouais,
et lui compris. Là, on lui dit non, tu restes sur ton côté, tu essayes de faire l'effort, s'il te plaît. Par contre, Sa Majesté, tu dois la laisser passer, bien sûr. Alors, c'est pas la première fois que Messi aurait des soucis avec certains joueurs, on le sait. Mais pour moi, ça semble fermé pour lui.
Pourquoi est-il toujours à contre-temps quand même dans le jeu? On sent que... Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est parce qu'il y a toute cette pression? Est-ce que c'est parce qu'il a l'impression qu'on va toujours favoriser Messi ou Suarez et lui non?
Je prends un exemple. Quand j'évoluais, que j'étais jeune joueur à Marseille, j'ai eu la chance de croiser des Jean-Pierre Papin, Rudy Voleur, Alain Bokchic. Et la plupart du temps, on vous dit, Marco, quand tu rentres, mets en retrait. C'est-à-dire qu'on joue... C'est à contre-courant, en fait. C'est-à-dire que moi, je rentrais pied gauche ou sur mon pied droit pour vouloir faire un crochet, je me dis, je vais tenter. Tu sais très bien qu'il faut pas tenter, quoi. C'est-à-dire que là, il faut que tu ton esprit, il va penser à une chose, mais tu vas te rappeler de ce qu'on t'a dit avant. Attention, ici, à Jean-Pierre qui déborde ou s'il y a Rudy Voleur ou Bokchic, ne te manque pas. T'es au Vélodrome, il faut que tu les fasses marquer, en fait. C'est très particulier. Et là, qu'on le veuille ou non,
on n'a pas dû lui dire, mais il le sent, c'est ça. C'est l'ombre dont parle David.
Annie, si moi je rentre au Barça, je sais très bien à qui il faut que je donne la balle. Croyez-moi, à 47 ans, Annie, je vais mettre deux coups de coude, je vais mettre un coup de tête et je vais donner à Messi. Donc, automatiquement, croyez-moi, sur ce coup-là, il faut faire avec, faut jouer avec, et si on rentre dans le moule et qu'on arrive à faire ce genre de choses, mais il faut se dire ce que j'ai prévu et ce que je pense, il faut contourner un petit peu ma façon de voir les choses et de faire, parce que on le sait. Regardez, vous avez parlé d'hier soir, 2-3 fois, il met pas Messi. Et alors pourquoi il y a eu le problème? Il peut tenter. Et donc ce genre de choses, c'est terrible, parce que Griezmann il rentre, imaginez, il enroule 2 fois, il y a Messi à sa droite, il donne pas. Mais le lendemain il se fait dézinguer. Mais vous vous rendez compte, il a pas 700 buts, il a pas donné à Messi. Mais vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Donc en fait, c'est très difficile.
Ouais, donc vous le comprenez.
Exactement. J'ai vécu ce genre de choses dans ma belle époque marseillaise.
Donc à suivre demain soir le Real qui jouera contre les Leganés, et dimanche soir le Barça revient et ça sera à Villarreal.
champions, München are champions, champions of Deutschland, Bayern are champions, fighting for fighting, he wants a title, champions of Deutschland, Bayern are champions.
C'était pour vous ça, cette petite chanson, David?
Oui, j'apprécie.
Hein? Mais c'était même pas en allemand. Vous avez
non,
noté, hein?
Non, mais les Allemands sont très aussi très tournés vers la langue anglaise. Oui, mais
je suis ravi parce que pour moi aussi, il y aura une petite musique, peut-être le Mia de Marseille pour Marseille après.
On va voir,
j'espère.
Ça, c'est la surprise de notre maestro Laurent Salerno.
Il sait faire.
Oui, il sait faire. Je lui fais confiance au niveau musique.
En tout cas, pour l'instant, on est en Allemagne et première à revenir sur les terrains dès le 16 mai dernier, juste à la sortie du confinement. Eh bien, c'était confinement le nôtre, puisqu'eux n'ont pas vraiment été confinés en Allemagne. C'est la Bundesliga. Et elle a déjà baissé le rideau. La 34e journée a conclu le championnat allemand le week-end dernier. Le champion en titre, le Bayern Munich, a fini sur une grosse victoire, 4-0 à Wolfsburg, alors que le deuxième de ce championnat, le BVB, le Borussia Dortmund, est bien terminé sur une grosse défaite.
Oui, qui fait tâche.
À domicile, alors bon, à domicile, stade vide, alors bon, en tout cas sur sa pelouse, 4-0, mais alors c'était face à Hoffenheim. La fin de saison est donc très spéciale dans ce pays, puisque ça se termine à huis clos et tout ça. Est-ce que malgré tout, on se souvient, on les regardait un peu comme des souris de la laboratoire, ces joueurs et les tests et d'abord l'entraînement à distance, ensuite après les masques et tout ça. Est-ce que ça a été bien géré, que c'est une finalement bonne fin de saison selon vous? Qu'en dit-on en Allemagne, David Ortolari?
Oui, il y a plusieurs sons évidemment qui s'entrechoquent, mais le principal d'entre eux, le courant principal, c'est celui qui était préparé en amont de façon très stricte, très précise par la Ligue et accepté, validé par l'ensemble des régions sur le plan politique. C'était ce plan, voilà, c'est ce protocole très précis, et il a été mené à bien, et on a bien senti de la part des principales voix en Bundesliga habituelles, comme notamment Karl-Heinz Rummenigge à Munich, une fois que le championnat a été terminé, un soulagement et un respect et un remerciement de ce que cette structure fabriquée littéralement au moment où on a voulu reprendre est tenue jusqu'au bout. Avec des craintes au départ, il y avait eu des cas au Dynamo Dresde en deuxième division. On s'était dit, si jamais ça fait domino, on va être obligé d'arrêter le championnat au bout de 15 jours. Il n'en a rien été et tout cela a bien fonctionné. Il n'y a pas eu en plus de blessures statistiquement que dans une saison classique. On a tenu le calendrier à peu près. Voilà, donc sur le plan logistique, sur le plan macro, si je puis dire, économique, ça a fonctionné. Après, sur le plan individuel, il y a un peu plus de critiques quand même, notamment de la part des joueurs, qui ont d'ailleurs constitué un espèce de syndicat parce qu'ils estiment, eux, qu'ils ont été traités un petit peu comme les derniers maillons de la chaîne, comme un peu des pantins. Il fallait assurer le spectacle et rentrer dans les sous avant le début de l'été, en l'occurrence.
Ouais. Enfin, eux aussi, ils vont rentrer dans leurs sous.
Aussi, évidemment.
C'est une conséquence. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des pots cassés ou des clubs qui ont dû vivre difficilement cette période, parce qu'on se souvient des statistiques notamment qui disaient que jouer à domicile, finalement, par exemple, ça servait pratiquement plus à rien.
C'était même un handicap
énorme.
Ouais.
Bien vu. Oui, alors il y a eu... Il va y avoir des traces profondes sur le plan économique. Il y a des clubs comme Schalke qui sont en grande difficulté financière parce que quand même la période, même si on a repris le plus tôt possible, il y a quand même des clubs qui ont été en grande difficulté. On sait
que... Puis vous le disiez, en plus on connaît que la philosophie allemande de remplir les caisses, c'est aussi de compter sur le public et sur la billetterie, tout à leur honneur d'ailleurs. Mais là, évidemment, c'était compliqué.
Oui, et ça a créé des difficultés particulières dans les divisions inférieures, surtout en troisième division où on ne compte pas, évidemment, on ne peut pas compter sur cette manne financière des droits télévisés et où là, la billetterie est à un poids énorme.
On se souvient des larmes de Dresde aussi.
Oui.
Ces joueurs qui ont été obligés de jouer je sais pas combien de matchs en peu de temps parce que sur le coup ils avaient été mis en quatorzaine.
Absolument, la saison est pas complètement terminée. La Bundesliga régulière est terminée, mais il y a encore le barrage aller-retour demain soir et en tout début de semaine prochaine. Et puis il y a encore la coupe qui a lieu dont la finale a lieu ce samedi
et puis ce week-end. Ouais.
Et puis ensuite il y a quelques clubs qui sont maintenant partis en vacances et on va relancer la machine pour la Coupe d'Europe et la saison qui va redémarrer en septembre. Je dis cela, Annie, parce que c'est important aussi les entraîneurs entraîneurs ont commencé à se rendre compte que 2020 va être un marathon interminable. Oui. Il y a un semblant de vacances, c'est vrai, mais on va quand même reprendre assez vite. Et sur le plan physique, sur le plan des organismes, il y a aussi quelque chose qui est nouveau et qu'on va découvrir au fil de l'automne peut-être. Et il y aura peut-être des difficultés aussi individuelles, physiques à ce moment-là.
Oui, moi, je me souviens. Et c'est pour ça qu'on se demandait si le choix de la Ligue 1, finalement, et on le saura au mois d'octobre, voilà, n'est peut-être pas un bon choix.
Pour moi, c'est toujours un bon choix que la Ligue 1 ne reprenne pas sur ce championnat allemand, ce qui a intéressé tout le monde, parce que c'est vrai que David, que j'adore, nous parle de cette Bundesliga, c'était ces 300 millions de droits télé qu'il fallait à tout prix. Oui. Donc, on n'en a rien à faire des joueurs. C'est où je te rejoins pas, c'est qu'il y a eu plus de 50-55 blessés qui ont été sur quoi 6-7 matchs.
C'est pas
les deux
flagrant.
Premières journées, ouais, les deux premières journées à l'échauffement, ils se claquent. Pendant le match, ils se blessent. Le premier match de Dortmund et du Bayern, il y a des blessés en veux-tu en voilà, mais c'est normal, ils s'étaient pas prévus pour reprendre. Alors tant que c'est pas les gros, les cadors, parce que Hollande a été blessé 2-3 semaines, il a eu un petit souci, hop, tiens, j'ai une
Hollande
alerte.
Hollande.
Ah,
c'est entre les deux.
Excusez-moi, c'est un mix des deux.
Oui, on se demandait si c'était le président ou le joueur.
Il y en a un que j'ai rencontré il y a pas longtemps, donc à vous de voir. Mais du coup, j'ai trouvé ça, moi je me suis, alors c'était sympa, sur les deux premiers week-ends on voit un petit peu de football, mais après je me suis ennuyé. Et malheureusement, oui, les joueurs ont été pris, qu'on le veuille ou non, ben, on va les faire jouer, on n'en a rien à faire du reste. Et surtout, là, maintenant, comme tu dis, les mecs, comment on va faire? Parce que là, on les a fait reposer, mais ils ont repris un cycle, mais là, ils doivent reprendre, ils doivent s'arrêter, on fait quoi? Et là, ils disent, finalement, ça va être à rallonge, parce qu'il y a un championnat d'Europe qui arrive. Pour moi, c'était. Voilà. Mais l'intérêt, là, au 30 juin, ils ont pris les 300 millions pour le droit télé, tout le monde est content.
David Lortolari, alors on a le Werder Bremen. Club historique, hein. Vous nous en avez parlé sur RFI avec le service des sports ce week-end qui descend et c'est triste.
Attendez Annie, il y a un barrage, ils vont en étant 16e, ils ont une chance contre le 3e de 2e division.
C'est pas encore
inespéré.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que Stuttgart, qui était descendu l'année dernière, et on se souvient parce que tout d'un coup on s'était intéressé à ce club, pourquoi? Parce qu'il y avait un champion du monde qui en faisait partie, et c'était évidemment Benjamin Pavard dont on a parlé hier. Et là, eh ben, on a Stuttgart qui revient après un an de purgatoire. C'est la belle histoire de revenir.
Ben oui, parce que c'est pas la première fois en plus qu'il remonte directement après une descente 2017 la fois précédente. Donc c'est un club qui est en train de se faire une culture de la remontée immédiate aussi. C'est la troisième fois qu'il monte. Il y a beaucoup de symboles sympathiques. Mario Gomez était extrêmement soulagé de terminer sa carrière parce qu'il s'arrête en aidant son club historique à monter comme ça. Il avait été champion avec ce club en 2009. Ça paraît un autre siècle, mais ça n'est pas si loin que ça. Mario Gomez d'ailleurs a plaisanté en disant je ne m'arrêterai que si le Real ou le Barça ne font pas appel à moi.
Il s'est arrêté.
Donc, il s'arrête.
Il dit qu'il est en négociation, mais c'est pour faire rire, évidemment. Il va prendre des nouvelles fonctions.
Le fameux
sans doute,
serial
dans ce club.
Killer.
Oui.
Hein, qu'on l'avait surnommé comme ça, Super Mario, quand il jouait au Bayern Munich.
Et puis, il y a quand même, c'est un club, il y a une forme de justice dans cette remontée. C'est une très grande ville du sud-ouest, évidemment. Et puis, il y a des joueurs, Batshuber aussi, qui a été international défenseur. Il y a eu des joueurs très connus dans ce club. Et cette remontée n'est pas due au hasard, même si elle s'est jouée à la dernière journée en compagnie d'un club qui est moins habitué à la première division, qui lui a terminé premier, c'est Bielefeld.
Alors on vous avait préparé un petit cadeau là vous m'avez pas fait la passe, donc c'est pas grave.
Je suis très individualiste, vous le savez.
C'est
pour ça que moi je suis un mec, je donne du plaisir, c'est comme ça.
Mario Gomez, le serial killer. Voilà, Mario Gomez, le buteur. Hein, on se souviendra de lui vraiment comme quelqu'un qui marquait des buts dans cette équipe d'Allemagne. 2014,
un avançant, hein, un numéro 9, puissant.
J'adorais.
Malheureusement blessé au moment de 2014. Donc il n'a pas pu faire la Coupe du Monde remportée par ses camarades.
Mais voilà un joueur qui n'était pas un génie et qui a fait un très beau passage au Bayern quand même. C'est dire qu'on peut y réussir tout en n'étant pas forcément Messi.
Quelques mots, le Bayern, sacré pour son 8e titre consécutif, le 30e de l'histoire du club. Ils sont à l'arrêt, mais il leur reste un 8e de finale retour à disputer. Alors, ils ont un net avantage, hein. En plus, ça sera à domicile. Alors, effectivement, c'est un avantage désormais. En tout cas, ils ont 3 buts d'avance qu'ils avaient marqué à Chelsea. Et surtout, pour la suite, est-ce que ce stop peut être finalement mauvais pour eux?
tout est prévu, tout est préparé, tout est organisé. Okay. Non, mais après, il y a toujours ce discours, cette communication puissante, rassurante, en disant on a ce qu'il faut pour être performant à n'importe quel moment.
Bon. Mais au-delà.
Au-delà. En fait, il y a plusieurs pavés sur le chemin est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'il y a une finale de coupe avec un gros enjeu parce qu'en face c'est Leverkusen qui va jouer dans cette finale quelque chose d'important, qui va avoir lui aussi la Coupe d'Europe derrière et qui pourrait se qualifier pour la Ligue des Champions par le biais de la Ligue Europa. Donc ça veut dire que ça va être une finale importante et le Bayern, ils savent très bien qu'ils peuvent pas la dilapider. Il y a ensuite la Ligue des Champions et on a prévu de laisser les joueurs, je crois que c'est 12 ou 15 jours de break avant de reprendre vraiment sérieusement une nouvelle saison en fait.
Ouais, exactement.
Avant la reprise de cette
qui commencera
cette
par la Ligue des Champions. Ouais. Cet arrêt en fait, ils sont quand même de nouveau sur une dynamique les joueurs Marc Lebra.
Oui, puis c'est presque pour eux cette fameuse coupure, ils ont quand même un lien avec le camp d'entraînement, s'il y a des petits bobos à les soigner, s'il y a une petite récupération, il faut pas croire qu'ils vont partir 15 jours en vacances hein, ils vont pas se balader, mais en tout cas ce qui est sûr, ce qu'on
ils
a vu sur
le programme de travail, n'est-ce pas?
Les derniers ils ont toujours un programme, mais les derniers événements, le Bayern c'est quand même une équipe qui est par rapport à la Juve et tout ce qu'on peut voir toutes les autres équipes, c'est bien rodé, c'est bien mis en place. Et Lewandowski qui, pour moi, aujourd'hui est...
Et Thomas Müller qui revient bien.
Et Thomas Müller qui surgit, qui était soi-disant fini, là il est fini. Eh ben, il faudra compter sur le Bayern, je pense.
Et en plus, ils avaient un effectif assez restreint ces derniers mois et l'entraîneur a souhaité officiellement, et il y a des renforts déjà qui arrivent, a souhaité que cet effectif soit un peu gonflé, donc ça permettrait peut-être aussi rapidement, à court terme, d'éviter de souffrir d'une absence.
Voilà pour ce qui est de l'Allemagne qui a donc terminé son championnat. On continue, on prend la route du sud de la France,
oui,
Marc.
Oui, bien sûr.
Vous la connaissez?
Oui.
National 7
sûr. Exactement.
Ou le TGV.
Le Bayern du sud de la France. De la planète de Marseille.
Donne vie à base des paroles en harmonie. Sa bonne vie part de ma véritable hégémonie. Je suis dopé, non choc, me bloque un instant. Les chocs et du top, tu le rock et me moque de votre époque.
Vous venez de la planète Mars
Un des premiers, il me semble que c'est le premier album d'IAM, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est le tout premier Planète Mars qui était extraordinaire.
C'est un martien donc.
Exactement, oui, c'est ça.
Vous faites partie du clan.
Exactement.
L'OM, le club de la cité phocéenne, si cher au cœur de millions de supporters qui ne sont pas tous de cette planète Mars, mais qui en tout cas aimeraient en être et aimeraient être marseillais. Le club jouera la Ligue des Champions l'an prochain, on en parle souvent, un grand retour sur la scène européenne, mais où en sera le club? Il y a un feuilleton ces derniers jours sur la Canebière. Un acheteur s'est pointé sur le Vieux-Port pour crier haut et fort qu'il voulait acheter le club. C'est pas vous, Nabil Djellit?
Non, c'est pas moi. Bonjour, bonjour Ali, bonjour à tous.
Bonjour Nabil.
Salut Nabil.
Salut Nabil.
Ouais, voilà. Et puis salut à tous. Je peux payer en dinars. Je sais pas si ma courte habituée au dollar serait intéressée par une telle offre.
C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc Nabil, notre fin limier, il est du côté de la Canebière ou du Vieux-Port. Et on voudrait en savoir plus sur ce feuilleton. Alors Nabil, cet homme qui est débarqué sur le Vieux-Port pour dire j'achète. En fait, c'est l'homme d'affaires de Toulon. Toulon, la ville de Marc Lebra. Il s'appelle Mourad Boudjelal. En France, on le connaît bien puisque c'est l'ancien propriétaire du RCT, le club de rugby. Donc, pas le même ballon. Mais en tout cas, il a eu une belle carrière avec ce club. Est-ce que l'offre est sérieuse ou pas? Est-ce que c'est le sous-marin de quelqu'un? Est-ce que c'est le sous-marin de capitaux venus du Golfe, d'un autre homme d'affaires? Info ou intox, Nabil Djellit?
Bah écoutez, Annie, c'est toute l'interrogation. Pour l'instant, on peut pas y voir forcément très clair. On attend d'avoir du concret. C'est ce qui a été promis, notamment par Mourad Boudjelal, notamment avec une lettre d'intention, avec une offre ferme à venir. Il y a une forme d'opacité, oui. Pour l'instant, tout est davantage plus sur l'affichage qu'autre chose. Aujourd'hui, Mourad Boudjelal n'est que la vitrine, en fait, d'un projet avec d'autres hommes derrière lui, puisque ça a été expliqué ainsi, et notamment l'apparition d'une tierce personne qui serait la courroie de transmission entre Mourad Boudjelal et des fonds qui viendraient du Golfe. Donc, on parlerait de fonds saoudiens et de fonds émiratis. Celui qui serait un peu la cheville ouvrière de ce tour de table, comme on dit dans le monde de la finance, plutôt un Tunisien répondant au nom de Mohamed Ayachi Ajroudi, un homme d'affaires tunisien qui est très bien introduit dans le golf, mais qui est quelqu'un davantage contesté et clivant en Tunisie. Il est taxé, entre autres, notamment d'être un peu mégalomane parfois. Donc, pour l'instant, Annie, c'est plus, on va dire, quelque part, un tapage médiatique qui vient donner un peu du grain à moudre aux rumeurs sur la vente de l'OM, plutôt que des choses concrètes. Et d'ailleurs, ici, Annie, quand on parle aux Marseillais, ils sont très prudents, échaudés par le passé, notamment par l'épisode Kashkar que Marc doit bien connaître. Voilà, on attend de voir, on espère, parce que le fantasme absolu des Marseillais, disons-le clairement, c'est de retrouver une grande équipe. Et aujourd'hui, les grandes équipes, ça passe par des fonds plus puissants, des fonds comme les fonds qataris, notamment avec le Paris Saint-Germain. Donc on attend et on croit modérément pour l'instant dans le projet porté par Morad, comme ils disent, puisqu'ici, ils disent pas Bouguelal, ils disent c'est vrai ce qu'il dit Morad. Voilà, un peu l'ambiance sur le Vieux-Port.
Marc, Mourad, vous le connaissez bien, Mourad Boudjelal, non seulement parce que vous êtes toulonnais, alors on le connaît en France effectivement pour la réussite avec ce club, mais c'était un homme d'affaires qui a plutôt bien réussi dans votre ville.
Dans tout ce qu'il a fait à Toulon, il a réussi les librairies, l'édition, ça a été vraiment quelqu'un de très important. Et il faut savoir aussi qu'au niveau du rugby, il a quand même amené sur la planète rugby en France les plus grands joueurs, Oumaga, il a ramené ce qui se faisait de mieux et puis
Wilkinson,
il a gagné des titres,
hein.
Il a fait Wilkinson, il a fait des triplés avec Toulon, je crois que c'est en 2015. Ce qui est assez surprenant, c'est que pourquoi aujourd'hui Mourad Boudjelal serait capable de monter au créneau de dire de telles choses si derrière, c'est parce qu'il y en a qui, j'entends, oui, mais c'est pas vrai, c'est que du vent. Héros qui nous explique que le club n'est pas d'avant et qu'ils sont au courant de rien. Je vois pas pourquoi Mourad Boudjelal aujourd'hui, que j'ai côtoyé une ou deux fois, que j'ai croisé, a besoin de cette publicité. Je pense que sincèrement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et que lui, peut-être, il veut être un petit peu dans le rouage de ce nouvel organigramme qui peut arriver, mais parce que beaucoup de gens, mais c'est pas vrai. Enfin, je vois pas pourquoi lui aujourd'hui, il y a pas mal de mythos, des mecs qui sont capables de faire ça. Lui, je vois pas l'intérêt aujourd'hui de sortir, à moins qu'il ait perdu la tête, mais ça m'étonnerait. Donc quand j'entends ce jeu, tu vois, Nabil, tu l'as dû le côtoyer aussi, je vois pas l'intérêt pourquoi il dit ça.
Mais c'est pas tellement en fait la crédibilité ou la légitimité de Mourad Boudjelal, c'est plutôt le process qui est étonnant, parce que quand on rachète
c'est surprenant, mais c'est lui ça.
En règle générale, c'est pas la manière qu'on a de fonctionner. Par exemple, en 2016, quand Franck McCourt a racheté l'Olympique de Marseille, il y avait au moins une trentaine de projets concurrents à ce moment-là et des amorces de projets. Et quand vous êtes un propriétaire comme Franck McCourt, vous êtes obligé de vérifier au maximum qui sont vos interlocuteurs, parce qu'il y a une forme d'opacité quand on vous parle de fonds, quand on vous parle de banque, quand on vous parle de tour de table, quand vous avez un homme d'affaires franco-tunisien qui vous parle d'une croisade pour la paix, d'un projet humanitaire, on a le droit quand même aussi de s'interroger sur le sérieux de ces intentions-là. Après que Mourad Boudjelal ait un dessein et croit en Marseille et pense que la place de Marseille c'est tout en haut, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est pas lui qui apporte ses propres fonds. Donc,
ah non, ça, c'est
forcément,
sûr.
On s'interroge sur les gens qui sont derrière. Et c'est pour ça, effectivement, Annie, vous avez raison. Qui est derrière? Voilà. Mm-hmm. Et là, on doit en savoir davantage. Souvenons-nous, en 2016, des Iraniens également s'étaient approchés de l'Olympique de Marseille, l'homme d'affaires d'Anna également. Donc, en fait, c'est surtout ça aujourd'hui qui interpelle les gens. Donc, on va voir. Ils ont parlé. Maintenant, il faut assumer.
Exactement. Et pour l'instant, en tout cas du côté de l'OM, officiellement, l'entourage de Franck McCourt dit l'OM n'est pas à vendre. Mais pendant ce temps, le président de ce club, en héros, est en train, lui, de faire son travail avec l'entraîneur qui est resté, le si sympathique André Villas-Boas, qui a redonné un peu d'allant et de cœur aux Marseillais avec cette place européenne l'année dernière. Ils forgent leur équipe. Celui qui reste, c'est Dimitri Payet, qui a accepté de baisser son salaire pour rester un peu plus sur la Canebière et au Vélodrome. Il est heureux à Marseille et il a renouvelé sa déclaration à cette ville sur OMTV hier.
Depuis mon arrivée, tout se passe très bien. J'arrive à m'épanouir, j'arrive à faire en sorte que moi-même je progresse, mais que le club aussi progresse dans son projet. Après, je l'ai dit aussi, le club, il y a quelques années, est venu me rechercher pour me ramener à la maison. Le club m'a donné, donc aujourd'hui j'avais aussi envie de lui rendre. C'est vrai que le confinement m'a permis de beaucoup réfléchir, notamment sur ma vie personnelle, ma vie d'homme. La réflexion a été de dire que voilà, on va privilégier l'épanouissement professionnel, mais aussi familial. Et Dieu sait que c'est dur d'avoir les deux. Moi, c'est ce que j'ai la chance de l'avoir ici. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'installer à vie, d'être Marseillais à vie.
Voilà le réunionnais marseillais à vie.
C'est beau.
Dimitri.
J'ai envie de pleurer.
Payette. Écoutez, son entraîneur, il voulait le conserver. Eh bien, il est content.
Ton effort est quelque chose de considérable et très humain. Et le fait que ton fils plus âgé ici, c'est une représentation de la famille et des efforts. Et je suis évidemment heureux pour toi, pour l'émotion que tu m'as transmise hier dans mon bureau. Et j'espère que moi et l'équipe, qu'on peut continuer à profiter de tes efforts, ce que tu as fait l'année dernière, qui était exceptionnel. Tu nous as bien manqué pendant les 4 matchs de suspension. Alors, c'est bon qu'on va continuer à profiter de tes qualités pendant la durée.
On va trouver Payet encore une fois sur le côté gauche. Payet qui va provoquer, qui rentre dans la surface. Dimitri Payet. Oh, la petite fin, c'est bien fait. Payet qui cherche une solution. Oh, il est allé tout seul, Dimitri. Bilassar qui cherche une solution. On sera avec Payet. Payet. Et Payet.
Une statue, comme ils y vont. En tout cas, une statue à Payet, peut-être un jour. Nabil, est-ce une attitude normale de réduire son salaire pour vouloir rester? Est-ce que, finalement, c'est aussi le confinement? Il dit qu'il a beaucoup pensé pendant le confinement, qui a dicté un peu cette attitude de la part de Payet. Ou est-ce un petit calcul simplement financier?
Bah, je pense que c'est un peu des deux. Après, il a dû se dire, je peux aller à la fin de mon contrat. De toute façon, l'Olympique de Marseille me donnera ce qu'ils me doivent. Ensuite, c'est aussi d'avoir des opportunités sportives au niveau de l'OM et financière au niveau de l'OM. Quand vous avez 35 ans, Annie, ça se complique là, c'est un peu un gagnant-gagnant. Hein. L'Olympique de Marseille en profite pour amortir et réparer un peu ses échecs, c'est raté sur le projet McCourt en donnant des salaires XXL à des joueurs qui sont aujourd'hui trentenaires, qui ne sont pas valorisés sur le marché des transferts, qu'on ne peut pas revendre. Donc ils amortissent le choc sur 4 ans au lieu de 2 ans. Ils lissent, comme on dit, le salaire de Dimitri Payet. Ils vont essayer également de le faire avec Mandanda. Ils ont aussi un autre souci, c'est Strootman, qu'ils sont prêts même à ne pas transférer et à laisser partir tout en résiliant son contrat si un autre club ailleurs accepte de prendre en charge son salaire. Après, sportivement, oui, je veux dire, Villas-Boas, c'est très bien pour lui de conserver Dimitri Payet. Ça a été son leader la saison dernière. C'est lui qui l'a relancé. On disait tous que Payet ne pouvait plus jouer derrière un attaquant, pas sur un côté, parce qu'il pouvait pas faire les contre-efforts. Au contraire, il a montré que voilà, il avait répondu. Moi, voilà, après. Ce qu'attendent aussi les Marseillais, c'est aussi, oui, c'est bien de conserver certains joueurs, de fédérer les énergies, mais les Marseillais, ils ont besoin de rêver, quoi. Ils ont aussi besoin de voir arriver des nouvelles têtes et d'améliorer qualitativement l'effectif, parce qu'on rappelle à tout le monde que la saison prochaine, l'Olympique de Marseille est en Ligue des Champions.
Mmh. Et que là, ça sera compliqué. Bon, il a 33 ans, hein, vous
33
me dites,
ans,
hein,
ouais.
C'est comme Messi, il a le même âge que Messi.
Exact.
Payet, par moment, il fait rêver quand même le public du Vélodrome, Marc.
Oui, non, mais c'est... Oui, il fait rêver. Après, on surprend personne en sachant que la plupart du temps, d'avoir une saison complète, de l'avoir à 100% sur une saison complète, c'est un petit peu délicat. Si l'année dernière, à la même période, on dit on va refaire signer pour 2 ans Payet, les gens auraient dit attendez, on va réfléchir un peu. Comme Mandanda, l'année dernière, la saison de Mandanda cette année, l'année dernière, c'est pas du tout la même. Et là, on nous dit attendez, on va faire. Alors là, Héro, qui a fait que des bêtises énormes, est en train de nous dire mais attendez, j'ai fait des bêtises, j'ai mis le club dans une situation très compliquée. Et là, vous savez quoi? Nabil l'a dit, je vais lisser. Mais il va lisser quoi? Moins 50, moins 30, mais à l'arrivée, le joueur à son âge à 33 ans, jouer Ligue des Champions, c'est magnifique pour lui. C'est une erreur gigantesque pour moi. Mais on aura le temps d'en reparler toute l'année, je pense.
On en reparlera et on reparlera avec vous aussi, Nabil, du recrutement de ce jeune Pape Gueye qui vient du Havre et qui pourrait créer peut-être quelques problèmes au club. Merci beaucoup, Nabil. Vous nous revenez. Hein.
Merci à vous. Bah, écoutez, j'ai pas forcément envie, mais.
Va au ballon des offres, te baigner.
Merci, Nabil Djellit. Merci, David Finzel et Laurent Salerno. À demain.